Bien, merci. Alors d'abord, je voudrais d'abord vous saluer tous, comme directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, hein, pas de l'orientation, mais enfin, il y a un lien entre les deux. Et puis, bah, remercier tous ceux qui sont là, les membres du jury, les collègues étrangers en particulier qui sont venus nous apporter leur expérience, leur savoir-faire, parfois un peu plus, je dirais, plus avancé que peut-être que le nôtre en France, même si je crois qu'il ne faut pas trop non plus flageller et savoir dire que les choses évoluent bien. Cette conférence de consensus aurait été impossible il y a quelques années. Voilà, donc moi j'aurais quand même commencé par ça, dire je me réjouis vraiment qu'on ait pu, que vous ayez pu, et je remercie l'IFE aussi de son implication dans son initiative, puisque je crois que c'est l'IFE qui est organisateur avec le ministère, mais d'abord l'IFE de cette conférence. Nous avons une convention avec l'IFE pour justement agir ensemble. Et donc je veux aussi remercier mes collègues de la MIPNES, tous les collègues impliqués du ministère, Claude Bertrand en tête, sur toute cette évolution. Alors oui, conférence de consensus sur, je ne sais plus le titre exact, mais réussir ou échouer dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas si longtemps, c'était quasiment inimaginable ici. Voilà. Et cet amphithéâtre, pour être honnête, est quand même beaucoup plus occupé. Je ne parle pas du CNESER, que j'ai le plaisir de présider régulièrement ici. Mais en dehors du CNESER, est beaucoup plus occupé par la DGRI. Et, fort utile, mais les très, 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 très nombreux colloques de toutes les disciplines et en lien souvent avec l'Europe ou avec les PIA, enfin, etc., que, enfin, je ne sais pas si c'est même pas, à part une fois les défis, ici, une fois les défis. Sinon, je pense que c'est la première fois qu'on a une occupation, si je peux dire, paisible, de cet amphithéâtre pour des sujets pédagogiques. Voilà. Donc déjà, ça, je voudrais le saluer. Ça montre d'ailleurs que, voilà, qu'il faut qu'on occupe plus cet amphithéâtre pour ces questions, Claude. Je veux dire, il y a la conférence de consensus, mais d'autres raisons. Et donc, je le vois, ça, déjà, votre existence, cette conférence, sa forme aussi, même si je sais qu'il y a encore des partenaires qui auraient dû être présents, qui ne l'étaient pas, donc il faudra que la prochaine fois, on arrive à associer tout le monde, côté étudiant et côté conférence d'établissement. Je pense que déjà, en soi, c'est vraiment la marque que quand même, dans un contexte français qui n'est pas, et même dans le secondaire, parce que c'est quand même ça le sujet, pas très ouvert aux questions pédagogiques et transdisciplinaires, c'est donc un événement en soi qui marque, je pense, un changement de monde. Donc voilà, donc ça, je le salue en tant que tel. Alors maintenant, je voudrais un peu réagir aux propositions et aux remarques du début. Alors d'abord, j'ai trouvé plus de propositions que vous n'en aviez, donc j'ai eu un problème de comptage, mais ce n'est pas grave. Alors, vous ne pouvez que me ravir, madame, en posant la question de la réussite, parce que ceux qui me connaissent à la DGCIP connaissent mon obstination depuis 3 ans, peut-être plus que je suis ici, 3 ans et demi, à remettre en cause le concept de réussite. Alors, je suis linguiste, donc j'ai un goût pour personnel, si je peux dire, pour les questions de notions, de terminologie et de polysémie, qui évidemment tient aussi à ma formation. Et dès que je suis arrivée ici, je me rappelle fort bien le premier été 2012, on avait travaillé à l'époque avec Daniel Filâtre, à l'époque conseiller formation de Geneviève Fioraso, maintenant recteur, ô combien impliqué sur toutes les questions de formation. Olivier Lefebvre, qui était à l'époque le responsable du service statistique du ministère, et moi-même, et Jean-Michel Jolion, qui était à l'époque chef de service chez moi, qui est maintenant le conseiller formation, donc c'était le petit quatuor de réflexion de cet été-là, pour commencer à combattre les premières formules qui venaient à l'esprit de notre ministre, toute nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, qui était, Voilà, la formule. Il faut, mais pourquoi n'arrive-t-on pas mieux à lutter contre l'échec massif dans l'enseignement supérieur ? Et donc, je me rappelle que nous avons fait des notes, et puis, y compris en interne d'ailleurs, hein, c'était aussi pour ma direction, mais largement pour la ministre. Puis, attendez, commençons par questionner cette histoire de l'échec massif dans l'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi ? Voilà. Donc, alors là, vous trouvez plus supporter que moi sur ce problème du mot réussite, vous ne pouvez pas trouver. Hein. Donc, on a écrit beaucoup de choses. J'ai convaincu mes collègues du service statistique ministériel, donc qui sont extrêmement attachés à la statistique, à la précision des chiffres, mais dont que j'ai convaincu que derrière leur précision des chiffres, il y avait quand même un problème de savoir ce qu'on mesurait, parce que par ailleurs leurs chiffres n'étaient pas en cause, que effectivement, la réussite et l'échec, ça n'est pas un concept objectif, ce n'est pas une, et qu'on peut pas comme ça dire que de document du ministère en document du ministère laisser croire qu'il y a 30%, parce qu'en gros c'était ça, hein, qu'on me sortait sans arrêt, 30 ou 40%, je ne sais plus, d'échecs en première année, et que c'était ça qui mesurait l'échec dans l'enseignement supérieur. Parce qu'en plus, on vous passe de l'échec en première année à l'échec dans l'enseignement supérieur, c'est quand même franchement autre chose. Bon. Voilà, donc on a beaucoup, j'ai même fait faire une note, hein, je pense qu'il faudra la fournir aux collègues qui animent ce... On a fait une note, on a revu les documents statistiques du ministère pour... pour dire, selon qu'on définit comme ça ou qu'on définit comme ça, c'est pas la même chose. Donc, j'ai progressivement imposé qu'il y ait une conception, alors ce n'est pas la seule, mais qu'au moins celle-ci soit prise. Je ne dis pas qu'il n'y en a qu'une, hein. Jamais un linguiste vous dira qu'il y a qu'une, c'est impossible. Mais en tout cas, qu'il y avait au moins une acception qui permettait déjà de dire les choses autrement, donc c'est l'acception OCDE, hein, en fait. Qui est que, en tout cas, on peut, entre autres, mesurer la réussite dans l'enseignement supérieur, je dis bien dans l'enseignement supérieur, parce qu'on peut réussir sans réussir dans l'enseignement supérieur, ce qui est aussi une autre question. Enfin, on peut ne pas avoir de diplôme d'enseignement supérieur, et moins, mais quand même, réussir. Mais en tout cas, dans l'enseignement supérieur, c'est le fait de sortir avec un diplôme. Voilà. J'ai déjà imposé ça, et donc ça ne veut pas dire qu'on a le diplôme qu'on avait prévu en y rentrant, ça ne veut pas dire qu'on l'a sans coup férir dans le temps normé prévu par l'institution, ça veut, bon, voilà, etc. Donc ça, pour moi, c'est fondamental, parce que sinon tout le reste de nos discours n'ont pas de sens, le droit à l'échec, le droit à l'orientation, c'est forcément le droit à la réorientation. Le droit à l'hésitation, le droit au changement d'avis, le droit, bon, voilà. Et ça nous a aussi amené à des, donc, bon, voilà. Et de ce point de vue-là, vous le savez, la France est mieux placée que la plupart des pays de l'OCDE, puisque nous n'avons que 20% des personnes qui rentrent dans l'enseignement supérieur qui sortent sans diplôme, contre une moyenne de l'OCDE qui est à 30%. Et ça, je vous assure, c'est pas spécialement que je suis cocorico, hein, c'est pas, Je dis pas toujours, je n'ai pas l'excellence toutes les deux minutes à la bouche, hein. Mais de temps en temps, il faut quand même dire ce qui marche. Donc, la France a un meilleur taux de sortie avec diplôme, ou l'inverse, si vous voulez, un taux plus faible de sortie sans diplôme, que les autres pays de l'OCDE, et de loin. Bon, ça, je tiens à le dire. Bon, même si je suis bien d'accord aussi avec vous, hein, que la réussite ne se mesure pas qu'à la diplomation. Pour nous, évidemment... Bon, voilà, c'est quand même un des critères, mais ça suppose qu'on ne prenne pas, on fait fi, hein, d'autres, donc ça ne veut pas dire d'un seul coup, et surtout, on n'est pas obligé de sortir par où on est entré, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, c'est vraiment important. Alors, ça nous a amené en tant que direction à beaucoup défendre, et moi je l'ai fait régulièrement au Parlement, etc., à la Cour des comptes, la diversité de l'enseignement supérieur français. Contrairement, là aussi, parce que ça aussi, il y a des idées reçues. Donc, c'était une autre idée qui était très forte, hein, dans les politiques au début, en 2012, etc. Il faut simplifier le paysage, il faut réduire la diversité, etc. Les formations à Bac plus 2, on n'y comprend rien. Il y en a même à Bac plus 1. Et puis, eh bien, moi, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que, d'abord, les autres systèmes européens, là, il suffit de faire un peu de benchmarking. Ils ne s'appellent pas pareil, mais bon, une fois qu'on a compris que... Ailleurs, il y avait des bachelors en 4 ans, qu'ailleurs, on faisait un master en 1 an, qu'ailleurs, certes, il n'y avait pas des grandes écoles et des universités, mais enfin, l'Ivy League, ça vaut bien nos ENS et nos polytechniques. On arrête de dire que le système français est abominable et on essaye de regarder ce qu'il produit. Ben, il ne produit pas, effectivement, que de l'échec, entre autres parce qu'on peut commencer un endroit et, voilà, on peut démarrer un IUT. On a beaucoup critiqué les IUT sur le fait qu'aujourd'hui, ils ne débouchaient pas, enfin, majoritairement, les étudiants ne continuaient. Et alors, bon, si ce n'est pas que des bacheliers généraux qui rentrent, et si, effectivement, pour certaines catégories sociales et certains types de bacheliers, c'est la façon de s'assurer, une première marche et qu'ensuite, effectivement, ils rejoignent une licence professionnelle ou l'université ou, comme c'est de plus en plus souvent le cas même, des écoles d'ingénieurs, etc. Et alors, effectivement, c'est pas linéaire, c'est pas la classe préparatoire à l'école d'ingénieurs. Et alors, bon, donc je crois qu'aujourd'hui, de même que faire une école médico-sociale après avoir commencé une première année, pas seulement de médecine, hein, de plein d'autres choses, ou finir en droit, enfin finir, si je peux dire, hein, c'est pas négatif, s'il y a des juristes dans la salle, mais finir en droit après avoir commencé médecine, et alors ? Bon, donc, ça, alors, je peux vous dire, s'il y a une convaincue, c'est vraiment cette direction, et moi, personnellement, hein, vraiment. Donc ça, je crois que c'est passé. Donc on a progressivement fait entendre aux politiques que, un, et maintenant, c'est un bon test hein, quand on a des politiques, c'est quand tout seul, ils finissent par le sortir sans que forcément on leur ait refait une fiche au dernier moment. Ils savent que notre taux de sortie sans diplôme est meilleur que le taux de sortie sans diplôme de beaucoup d'autres pays de l'OCDE et que notre diversité, du premier cycle en particulier, est plutôt, en fait, une richesse qui permet, effectivement, alors à condition qu'on ait des passerelles. Donc, il faut des passerelles. Il faut pouvoir, évidemment, si c'est une diversité qui cloisonne les gens, ça va pas. Voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est le premier point sur la réussite, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur. Je pense que vous avez complètement raison. Alors, moi, j'y réponds un peu d'un point de vue ma réponse est en partie institutionnelle, mais derrière, il y a aussi effectivement, derrière cette question institutionnelle, il peut y avoir derrière une remise en cause de la conception même des études. Alors, dans la Stranes, donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et qui m'intéresse en lien avec la question de l'allocation des moyens. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une conception. Il y a effectivement une conception de l'étudiant, hein, qui est fondée dans le modèle même d'allocation, dans la façon dont nous répartissons les moyens, qui est fondée sur l'idée que la norme, ce qui marche, qui doit être salué, c'est le fait que quand on rentre en première année d'un cycle, on sort en troisième année du même cycle, pour l'université, dans la même discipline, sans, entre guillemets, redoubler, notion assez incongrue à mes yeux pour le supérieur, et dans un temps qui est un temps normé, puisqu'il n'y a pas si longtemps que Bercy dans les indicateurs annuels de performance du ministère, ne voulait voir que la licence en 3 ans. Nous avons progressivement obtenu 2. Ça a été aussi un de mes modestes combats, qui prennent la licence en 4 ans. Je les ai quand même convaincus que, pour les raisons que je dis, voilà, enfin, si à cet âge-là, on ne peut pas, dans un système non sélectif, hein, je prends la licence, mais même en DUT, hein, si vous regardez dans les filières sélectives comme les DUT, le taux de réussite en 2 ans n'est pas si élevé qu'il le fut à une époque. Donc, on a fait passer l'idée à Bercy même qu'on ne pouvait pas apprécier la performativité, comme on dit, ou l'efficience de l'enseignement supérieur pour ces degrés-là, uniquement sur 3 ans, et qu'il fallait bien prévoir, en quelque sorte, au moins une année de plus. Mais derrière, la question qui se pose, hein, c'est si on voulait aller jusqu'au bout, et qui irait avec votre idée de revoir la notion de réussite. Ça serait évidemment de complètement desserrer les taux de l'année, voire du semestre, enfin, etc. C'est-à-dire, là, ça, c'est notre rêve. Mais avec tout ce que ça peut entraîner de contestation, etc., enfin, de remise en cause, parce que ce n'est pas seulement un problème de modèle budgétaire, je pense qu'un modèle budgétaire qui serait adapté à une conception hyper souple des études, je pense qu'on le trouverait. C'était que ça, à mon avis, on le trouverait. Je regarde en même temps Monique Ronzou, IGAVNR, mais je pense qu'on le trouverait. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il faudrait compter autrement les étudiants, se dire, parce qu'actuellement, on les compte à la personne, et en fait, le critère de l'étudiant, c'est il suit une année. C'est comme ça qu'on finance, en gros, l'enseignement supérieur. Pour faire très vite, hein, je ne parle pas de la partie recherche. Dans notre modèle. Bon, donc, si on voulait admettre que faire des études, c'est s'inscrire dans un cursus pour, au bout d'un temps, variable selon la personne, selon ses possibilités de vie, de choix, de travail à côté, de césure, de bon, et qu'on capitalise des ECTS dans une certaine logique, mais avec un temps qui est variable d'un individu à l'autre, et en plus des ECTS vraiment transférables, c'est-à-dire qu'on les emmène avec soi. Bon, dans ce cas-là, il faut un autre modèle, il faut évidemment une autre façon d'allouer les moyens. Ça peut plus être, parce qu'on peut avoir un étudiant, je ne parle pas de formation, enfin, avec un lien, du coup, un rapprochement avec la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire que la césure entre les deux est très faible. Bon, et ça veut dire que vous êtes étudiant aussi bien en suivant 6, enfin, en capitalisant un semestre seulement 10 ECTS qu'en ayant fait les 30 du semestre. Mais dans les deux cas, vous continuez vos études. Il y en a un qui mettra plus de temps. On pourrait même imaginer, ça a été proposé, que certains le fassent en 2 ans, leurs 3 ans en fassent en 2 ans. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse différente et des durées différentes. Bon, pour moi, ça serait... Et ça a été évoqué dans la Stranes. Hein. Donc pour moi, ça serait effectivement, je dirais... je ne dis pas qu'on ne peut y arriver d'un seul coup, ça pose des tas de problèmes, hein, y compris en même temps de quel guidage quand même des étudiants, enfin, etc. Mais ça serait ça, la notion la plus souple d'étudiant. Et je pense qu'il faudra bien progresser par rapport à ça. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faudra progresser sur ce sujet. Nous, on serait prêts, je vous le dis, hein, par rapport à ça, je pense que vraiment, ce n'est pas le modèle d'allocation des moyens qui peut bloquer. Je pense je suis sûre qu'on pourrait trouver d'autres façons d'allouer les moyens en comptabilisant les ECTS suivis. Hein, tout est possible. Hein, aujourd'hui, quand même, on est capable de calculer des choses bien plus compliquées. Si on voulait financer les établissements au nombre de ECTS validés, je ne vois pas ce qui empêcherait de le faire. Ou alors, il faut améliorer notre système d'information, qui par ailleurs, ça ne ferait pas de mal. Mais c'est faisable. C'est certainement faisable. Et auquel cas, ce n'est plus à la tête de pipe. Puisque finalement, les têtes de pipe pèseront différemment selon qu'elles suivent une année ou 100 sentiers. Ou qu'elles suivent... voilà. Donc en tout cas, et à ce moment-là, la réussite, évidemment, c'est autre chose. La réussite, elle dépend des objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous avez décidé de faire vos 60 ECTS dans l'année, puis parce que vous pouvez les faire, que bon voilà, eh bien vous faites vos 60 ECTS dans l'année. Et si pour X et Y raisons, vous vous fixez comme objectif ou vous changez d'avis en cours de route et finalement vous en faites que 20, vous n'êtes pas plus en échec que l'autre. Bon voilà, donc en tout cas, le ministère n'a pas de problème de fond, hein, existentiel avec ce sujet. Après, ça pose évidemment de tout autre des problèmes dans le rapport à la compensation, sujet auquel les syndicats étudiants sont très très attachés, des questions par rapport aux bourses. Non mais voilà, enfin, il y a plein de questions qui sont posées, mais je pense qu'on ne pourra pas rester... Enfin voilà, je crois que c'est un des sujets d'avenir, il est posé dans la Stranes, on ne le résoudra pas dans l'année 2015... Hein. Enfin 2016 même plutôt maintenant, on ne les résoudra pas dans l'année 2016, mais moi je pense que c'est une des questions de fond qui est posée à notre enseignement supérieur. Bon, voilà ce que je voulais dire sur la réussite. Alors, c'est vraiment, bon, du coup, les faisceaux d'indicateurs de réussite, bon, enfin, on pourra... Bon, en tout cas, vous nous trouverez, s'il y a besoin de... Enfin, dans la suite de ce sujet-là, la direction est très, très partante. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui, vous le voyez, m'intéresse moi-même. Alors, sur les autres sujets, qui est le rapport à la recherche, bon, je crois que ça progresse aussi. Hein, je pense que vous en êtes à preuve vivante, d'abord. Mais plus globalement, bon, il y a... on est en train de faire... Alors, c'est là aussi... d'un côté, je crois que l'IFE est en train de monter un observatoire, ou à monter, je ne sais plus exactement, mais bon, de la recherche sur le territoire français. Il y a Athéna, donc l'Alliance Athéna a été mandatée pour faire aussi pour les ministres un point sur, une sorte d'analyse des forces et des faiblesses de la recherche en éducation. Alors, pas spécifiquement dans l'enseignement supérieur, mais... Bon, je ne pense pas qu'il y ait une césure, il y a des choses spécifiques à l'enseignement supérieur, mais il y a quand même pas mal de points communs. Et puis, on a le lancement aussi sur le lien entre la recherche et l'éducation dans l'école. Cette expérience d'institut, alors il s'appelle tantôt, je crois encore, Institut Carnot d'éducation, Institut Condorcet d'éducation, enfin peu importe, qui est placé sous la responsabilité de M. Fougère, qui est en train de se lancer. Alors, ce n'est pas sur le SUP. Je suis bien consciente que ce n'est pas sur le SUP. Donc, la question de la recherche sur le supérieur, par ailleurs, une question, en ayant moi-même fait un peu ou dirigé des thèses sur le supérieur, c'est vrai que c'est faible en France, hein, pour le coup. On a une double faiblesse. On a la faiblesse des recherches en éducation. Là, je pense que c'est en train de bouger réellement. Il faudra qu'on arrête de dire uniquement que c'est faible, parce que je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Ça commence à être vraiment un peu plus compliqué que de dire ça. Bon, la recherche sur... D'abord, la recherche sur le supérieur, globalement, est faible. Globalement, sur le supérieur. Hein. C'est-à-dire, on a un peu... On a deux, trois personnes très connues... Non, mais... qui sont un peu l'arbre qui cache la... Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut que ça soit... Et c'est pas assez connu, c'est forcément interdisciplinaire. Et donc, je pense que là-dessus, il faut effectivement... Mais je dirais qu'il faut que ce soit les... On va pas recréer la mission scientifique du ministère, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, il faut que ce soit les établissements eux-mêmes. Enfin, je pense que là, pour le coup... on peut pousser côté ANR, on peut pousser, mais bon, les appels d'offres de l'ANR sont très généraux. Rien n'empêche, non, mais les défis sociétaux, ça, voilà, tout le monde peut y candidater. On n'obtiendra pas, je pense, enfin, c'est pas moi qui suis la première interlocutrice de l'ANR, c'est mon collègue Roger Genet, mais on n'obtiendra pas des changements à 180 degrés de l'ANR, on va pas relancer des appels d'offres sur tel sujet, etc. Je pense que là, c'est quand même la question. Moi, j'ai moi-même été directrice d'équipe de recherche. C'est quand même d'abord aux chercheurs, aux équipes de recherche en SHS dans les différents établissements, etc., d'ouvrir des axes de recherche sur ces thématiques. Moi, je dirigeais une équipe de communication qui, a priori, n'avait pas de raison de travailler spécifiquement sur le supérieur. J'ai quand même fait faire... des thèses, entre autres, je pense à l'une d'entre elles, sur la démocratie d'expression dans l'enseignement supérieur, qui était une thèse à la fois d'analyse de discours et de socio-anthropologie, d'observation des pratiques dans les conseils, avec un étudiant qui avait été voir... assister à la mise en scène des conseils d'administration, etc., et à la parole étudiante dans... Bon, voilà, et c'est... Mon équipe n'était pas prédisposée du tout à travailler sur le supérieur, hein. Bon, il y a plein de disciplines, mais pour dire que là, il faut quand même que sur cette question du... Bon, c'était un autre sujet, c'était la démocratie étudiante, c'était ces questions-là, mais je pense que là, il faut que les... Je renvoie quand même beaucoup au milieu, quoi, hein. On ne mettra pas, a priori, voilà, par exemple, maintenant, je le dis parce que là aussi, on imagine que le ministère n'a pas bougé, donc il a bougé, nous n'avons plus, par exemple, nous n'allouons plus de doctorat, de contrats doctoraux thématiques. Je le dis, s'il y en a qui ne s'en sont pas perçus. Les contrats doctoraux, on les a mis dans les établissements. Il nous reste... les contrats doctoraux internationaux, il y a 3-4 organismes, et puis bien sûr, ce qu'on appelle les contrats doctoraux, enfin bien sûr, ENSX, bon, mais qui sont particuliers, puisque c'est les contrats doctoraux pour des normaliens ou des polytechniciens qui vont dans les autres établissements, qui peuvent aller sur toutes sortes de thèmes. Hein. Mais sinon, les contrats doctoraux ont été mis dans la masse salariale et les plafonds d'emploi des établissements. Donc, j'insiste un peu parce que moi je ne crois pas au truc piloté dans un sens. Donc si le milieu, c'est-à-dire vous et vos collègues, considérez qu'effectivement il faut qu'une partie de la recherche en SHS est multidisciplinaire, hein, et que certaines équipes fassent émerger ces sujets, ça peut être dans toutes sortes d'équipes, hein, je pense qu'il y a vraiment... C'est là, c'est dans les écoles doctorales, c'est dans les conseils scientifiques, c'est dans les établissements que doit apparaître cette préoccupation. Je pense que c'est vraiment fondamental. Je ne crois absolument pas au truc plaqué du ministère. Alors, nous, on peut aider, et je pense que on le fait, y compris à travers... voilà, là, il va y avoir un certain nombre d'événements, hein, le prix de l'innovation... le prix de l'innovation pédagogique. On fait en sorte maintenant à l'IUF, l'Institut universitaire de France, que la question de la qualité, enfin de l'implication dans l'enseignement, ça n'a pas été tout à fait banal hein, de demander que l'IUF, il y a un examen systématique des dossiers d'enseignement. Hein. Donc ça, c'était une demande de Geneviève Fiorazzo. On a commencé à le mettre en œuvre. C'est pas évident, hein, parce que les collègues n'ont pas l'habitude de valoriser dans leurs dossiers leurs pratiques pédagogiques. Hein. C'est pas du tout le cas en France. Bon, donc bon, voilà. Nous, on va essayer de faire ce que l'on peut hein, pour soutenir cette dynamique de recherche, mais on ne peut pas, d'un côté, dire, très souvent d'ailleurs, il faut laisser la liberté aux chercheurs et le ministère ne doit pas piloter en centrale la recherche, et puis, quand, inversement, quand ça nous arrange, demander que ce soit le... Bon, voilà. Donc, nous, on peut accompagner, on peut soutenir, je pense que toutes les initiatives, on les regardera, et tout ce qu'on peut faire, on le fera, mais... Il faut vraiment, sur un sujet comme celui-ci, qui est en plus son auto, qui est quand même la volonté de travailler sur sa propre organisation, hein, dans tous ses aspects, parce que je pense que les aspects ne sont pas distincts les uns des autres, hein, les aspects sociologiques, les aspects organisationnels, ce que vous avez dit sur le contrôle des connaissances, hein, la façon dont est organisé le contrôle des connaissances, dont il est pensé même. Hein, bon, tout ça, c'est pas indépendant de la pédagogie elle-même, etc. Moi, je suis assez optimiste parce que je pense quand même, ça fait 3 fois que je le dis, donc vous pouvez trouver, ça doit être, vous pensez que c'est vraiment un tic. Bon, peut-être la veille des vacances, j'en sais rien. Mais non, mais vraiment, sur ce sujet, je crois quand même que nos visites, ce que nous faisons, parce que on fait un tour de France, enfin, nous, je fais annuellement un tour de France, ce que j'appelle le tour de France pédagogique. Bon, en fait, je ne fais pas tout le tour de France, mais on voit 5-6 sites par an. Et je trouve que ça bouge énormément. Parce que il y a énormément de choses qui se font, énormément. Ce n'est pas assez dupliqué. C'est pas assez connu. Alors ça, c'est un vrai problème, hein, je l'ai dit à l'équipe. On a un problème de savoir comment capter l'innovation. Et je sais pas comment faire. Voilà, donc c'est un des... Et nous, c'est pas nos modestes comptes rendus de visite qui vont jouer le rôle de capteurs et d'amplificateurs. Mais c'est vraiment un problème. C'est aussi un problème que les IDFI, d'ailleurs. Les IDFI, et je pense pas qu'on puisse mesurer l'efficacité des IDFI uniquement au nombre de personnes qui passent dedans, enfin, pour résumer. Hein. Le PIA, quand on lit les évaluations du jury, il mesure au nombre de personnes qui ont suivi, enfin, les bénéficier des formations dans le cadre d'IDFI. Mais moi, je pense que c'est pas simplement ça. C'est pas simplement ça, le succès d'un programme comme celui-ci. C'est tout ce qu'il entraîne en boule de neige, tout ce qu'il entraîne comme effet. Et ça, c'est pas du même ordre. Donc, en tout cas, moi, ce que je peux dire en ayant visité quand même pas mal de sites, je crois qu'on a fait à peu près 6 ou 7 visites de sites, c'est-à-dire au niveau d'un ensemble, hein, donc Toulouse, Lyon, bon, etc., tout l'Est, bon, Lille, Montpellier, c'est que partout, il y a des choses qui ne se seraient en tout cas jamais présentées, qui n'auraient jamais été présentées à une direction générale, et qui sont valorisées par les établissements, qui sont valorisées par les directions de site, donc très fortement, et que cette dynamique elle s'exprime dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine de l'utilisation du numérique, dans la révolution de l'enseignement des langues, dans la pédagogie. Alors, des choses, on se le disait l'autre jour, qui sont pas, je montre les collègues parce qu'on a eu cette discussion, des innovations finalement que je retrouve dans tout ce que je lis de ce qui se passe aussi à l'étranger. C'est-à-dire que c'est pas... Il n'y a pas une invention à Grenoble que personne n'aurait imaginée ailleurs, hein, je vous rassure. Mais partout, on commence à considérer qu'il faut faire de la pédagogie par résolution des problèmes, de la pédagogie inversée, que le présentiel ne peut pas être l'unique façon d'enseigner, que en santé, tout ce qui est simulation, jeu sérieux, on peut faire la liste assez facilement. Alors, donc, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les comptes rendus de colloques de beaucoup de pays européens ou nord-américains, je pense au Québec en particulier. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est maintenant relativement généralisée. Et ce qui m'a semblé aussi voir sur les sites, c'était que partout se posait la question, effectivement, de fédération de recherche. Souvent, au niveau d'un site, c'est comme ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut... je me rappelle que c'était posé à Toulouse, c'était posé à Montpellier, c'était posé à Lyon. Comment est-ce qu'on peut rassembler des équipes différentes disciplinairement autour de questions de recherche sur l'enseignement supérieur et sur la pédagogie de l'enseignement supérieur, pas forcément en équipe institutionnelle, etc. Donc je pense que c'est mûr. Enfin, voilà, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est mûr pour que les deux mouvements se fassent ensemble. Bon, ce qui est encore pas assez... Voilà, ce qu'il faudrait pousser beaucoup plus, c'est que les équipes pédagogiques soient reconnues comme les équipes de recherche, par exemple. Voilà, ça, on n'y est pas. Alors après, il y a des transformations, c'est plus compliqué, parce qu'une équipe de recherche, c'est bien isolable, alors qu'on est par définition enseignant dans plusieurs équipes pédagogiques, si on est dans plusieurs diplômes, donc c'est plus compliqué. L'évaluation par les étudiants n'est pas assez généralisée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui tardent à se généraliser, à être... voilà. Mais il me semble quand même que les choses progressent beaucoup. Donc, sur la recherche, écoutez, moi, je n'ai pas de recette. Ce que je vous dis, c'est que l'État ne veut plus piloter d'en haut. Hein, voilà, c'est clair. Mais par contre, toutes vos propositions, si vous les précisez... toutes vos propositions, si vous les précisez un peu... seront les bienvenus et seront discutés, en particulier avec Athéna. J'insiste parce qu'on ne veut pas faire tout seul. Il faut vraiment voir le changement quand même de disposition d'esprit dans un ministère. Nous ne sommes plus ceux qui disons, enfin, je pense que ce n'est pas à nous, de dire ce qu'il faut faire. On peut dire, je pense que ce n'est pas le rôle... les sujets que vous abordez, c'est complètement les nôtres. Notre stratégie, on la sait, on veut effectivement que change la méthode d'enseigner dans le supérieur, parce que de toute façon, c'est une question vitale, tout simplement, je pense que c'est une question vitale, d'adaptation au monde qui est, à notre jeunesse, mais d'adaptation aussi aux conditions d'apprendre d'aujourd'hui. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de doute, ça ne se discute même pas. Je pense que d'une certaine façon, ça ne se discute même plus. Voilà, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on en parle, c'est qu'il n'y a plus le choix. Donc nous, on est vraiment complètement dans cette volonté de transformer les modes d'enseigner, les modes d'apprentissage, mais sur le comment, c'est vous et nous. On peut soutenir, accompagner, valoriser. Je pense que principalement, valoriser. Voilà. Après, il y a des réformes à faire qui ne sont malheureusement pas de notre seul ressort sur les conditions de recrutement, les conditions de progression de la carrière, etc. Ça, on voit très bien. Mais ça, je veux dire... Bon, l'habilitation à diriger des équipes pédagogiques... C'est un sujet que moi j'entends depuis 10 ans et qui n'a pas beaucoup avancé. Mais là encore, c'est le jour où la communauté est prête à le faire avancer à travers des représentants qui l'expriment pour elle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun haut fonctionnaire du ministère, je ne me mets pas dans cette catégorie, il n'y a aucun haut fonctionnaire du ministère qui a d'opposition à ce qu'il y ait une habilitation à diriger des équipes pédagogiques. Je prends cette expression volontiers pour... C'est pas un problème des dirigeants d'un ministère, c'est un problème du milieu. Le jour où le milieu est prêt à le faire et où ces instances représentatives sont prêtes à voter ces transformations-là, aucun ministre n'y verra d'inconvénient. C'est pas le problème. Voilà. Donc moi, je renvoie beaucoup vers vous. Je suis désolée en partie, mais voilà, en tout cas, je nous trouve bien en synergie, si je peux dire. Et puis, bon, je terminerai pas comme vous. Votre conclusion était extrêmement générale, donc je n'épiloguerai pas sur la démocratie, etc. Mais je pense que derrière ce que vous avez dit et la question de la réussite, qui n'est pas propre à l'enseignement, parce que la question de la réussite et de savoir rebondir, et de savoir ce que c'est que la réussite dans tout exercice professionnel, c'est quand même une question générale, pas que pour... je pense qu'il y a une continuité entre les deux. Donc, on a un rapport à la réussite en France. Bon. C'est souvent dit hein, par des étrangers hein, que dans certains pays, ce qui est valorisé, c'est la capacité à sortir d'un échec, c'est la capacité à rebondir après un échec. Bon. On sait très bien que la réussite permanente, le jour où ça craque, ça peut être terrible. Bon. Donc, mieux vaut savoir relativement jeune dans une vie et dans une pratique professionnelle, savoir ce que c'est qu'un échec et en sortir, que n'avoir jamais, et on a un système d'enseignement supérieur, entre autres fondé sur, voilà, c'est ce que je veux dire, qui valorise plutôt la réussite permanente. Bon. Donc ça, c'est un problème, je pense qu'on a un problème culturel, effectivement, en France avec ça. Donc, on est très intéressés, nous aussi, par ce thème, en dehors de nos problèmes de compter nos petits et de rendre compte à Bercy de ce qu'est la performance de l'enseignement supérieur. On a un sujet culturel qui est important, qui nous intéresse, et qui, pour moi, pose aussi un problème de fond par rapport à la jeunesse que vous avez évoquée, qui déborde la question des étudiants, qui est le pessimisme. Le pessimisme et mal-être, c'est plus compliqué. Les observatoires, ce que donnent les observatoires, est plus compliqué sur ce sujet. Mais en tout cas, le pessimisme... pour moi, ce pessimisme très marqué de la jeunesse française, sans parler de la société dans son ensemble, je pense qu'il renvoie aussi à cette... Il est probablement aussi à mettre en relation avec, effectivement, cette conception très normative de la réussite. Bon, je vous renvoie au débat qu'il y a eu dans l'éducation nationale sur les notes. Et donc, voilà. Donc ça, je pense que, sur le fond... On a là un sujet éducatif d'ensemble qui dépasse largement l'enseignement supérieur. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci, madame.